Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 13h au sommaire de l'émission. Le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis retour vers le passé ce samedi. Faut-il réécrire l'histoire de France ? Les débats se poursuivent, ils n'en finissent pas sur la mémoire de la colonisation et de l'esclavage et sur la possibilité même d'un récit commun. Notre invité dans une vingtaine de minutes est historien. C'est l'un des meilleurs spécialistes de la question coloniale, des enjeux post-coloniaux. On lui doit de nombreux livres qui font référence, des travaux sur la République et son empire, sur les os humains ou encore la fracture coloniale. Il publie un livre passionnant aux éditions de La Martinière, « Décolonisation française, la chute d'un empire ». Avec ses amis Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, livre préfacé par Benjamin Stora, et il est partisan de contextualiser plutôt que de déboulonner, d'expliquer, de raconter, plutôt que de s'en tenir aux usages politiques du passé. Rendez-vous avec Pascal Blanchard dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Au moins avec Marianne et Jean Jaurès, vous êtes tranquilles, vous avez des figures consensuelles qu'on ne peut qu'aimer, qu'apprécier. On n'est pas question de déboulonner ni l'une ni l'autre. Vous les avez bien choisies.
Même si elles ne l'ont pas toujours. Même si elles ne l'ont pas toujours été, ni pour Marianne, ni moins encore, ou tout autant pour Jean Jaurès.
Si on se souvient effectivement de
Exactement.
La fin
et puis
de
Marianne,
Jean Jaurès.
Marianne, c'est la République, et la question est de savoir ce qu'on entend par là, et comment on veut que cette République soit pour tous, et accueille tout le monde.
Et on va en parler justement tout à l'heure avec l'historien Pascal Blanchard, mais d'abord pour revenir sur l'actualité des derniers jours, et puisqu'on parle de la République, écoutez le président de cette République, c'était dimanche dernier.
Je ne crois pas que surmonter les défis qui sont devant nous consiste à revenir en arrière. Non. Mais les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit, que nous devons collectivement faire différemment. Et vous l'avez compris dans ce que j'ai commencé ce soir à esquisser, je me l'applique d'abord et avant tout à moi-même.
Emmanuel Macron, et c'était donc dimanche dernier au soir, et selon le journal Le Monde aujourd'hui, le président de la République devrait préciser ses intentions sur la fin de son quinquennat, changer de gouvernement juste après les élections municipales. Pourquoi est-ce que vous vouliez revenir sur ce nouveau chemin, Gilles ?
Oui, c'est une vraie question parce que si on réfléchit à cette intervention et à la manière dont elle se situe par rapport aux précédentes et par rapport à la prochaine que vous venez d'évoquer, si c'était un signe de ponctuation, ce serait un point virgule. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait
et c'est plus à la mode,
l'avant,
le point virgule.
Dans le Covid. C'est plus à la mode. Et on n'est pas encore complètement dans l'après. Et donc, en réalité, on attend le prochain épisode. Donc on a beaucoup commenté l'accélération du déconfinement, ce que l'on a pu considérer comme une clarification républicaine, cette formule du nouveau chemin. Moi, il y a deux choses qui m'ont intéressé dans cette intervention. La première chose, c'est sur la forme. Il y a quelque chose de positif pour Emmanuel Macron qui est l'audience. 24 millions de téléspectateurs, ça veut dire que malgré tout, il y a encore un dialogue entre les Français et lui en dépit des difficultés.
Enfin, un dialogue.
Et il y a quelque chose, en revanche, de... Ah, un dialogue. Le fait. Un dialogue.
On l'écoute.
Alors, vous avez raison. On va l'écouter. En revanche, il y a justement quelque chose de négatif pour le coup pour la démocratie, c'est que c'est une nouvelle fois une allocution. Et en l'espace de 4 mois, Emmanuel Macron aura fait autant d'allocutions que Angela Merkel en l'espace de 14 ans. Et donc il y a une forme très très particulière, extrêmement comme ça directe, mais sans question, qui pose pour le coup question. Et puis deuxième série de remarques, elle est sur le fond. On avait évoqué la semaine dernière le fait que la question était de savoir quelle allait être l'ampleur de la réorientation d'Emmanuel Macron. Bon, le nouveau chemin, pour l'essentiel, c'est un prolongement de l'ancien chemin. Ils restent sur le même terrain, sur le terrain économique, autour d'un mot d'ordre, la reconstruction, avec quelques inflexions, un peu plus d'écologie, un peu plus d'indépendance nationale. Mais pour l'essentiel, c'est une continuité. Alors, comme citoyen...
Ah, il dit quand même qu'il faudra faire différemment,
autre chose,
se réinventer.
Alors, on pourra revenir peut-être sur la méthode, mais en tout cas sur l'orientation. Comme citoyen, j'aurais pu souhaiter un tournant plus important. Comme analyste, je pense que c'est un choix du point de vue d'Emmanuel Macron qui se défend au sens où il garde une espèce de cohérence entre cette orientation, ce qu'il est, ce qu'est sa majorité politique et ce qu'est son électorat. Et donc, voilà, à la fois déception du citoyen et puis jugement plus nuancé de l'analyste.
Natacha Polony.
Je pense que, en effet, il y a la forme qui est importante à commenter parce que je serais peut-être un peu plus sévère que Gilles sur le fait que moi je n'ai pas vu de dialogue et je crois que cela commence à poser problème. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'Emmanuel Macron réussira à emmener les citoyens en s'enfermant dans cette posture qui est une posture qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que la magie du verbe qui retourne une situation, ça marchait quand le général de Gaulle renversait le putsch des généraux par quelques phrases bien choisies. Là, ce n'est plus ce qu'attendent les citoyens. Et je suis un peu inquiète qu'Emmanuel Macron n'ait pas perçu cela. C'est-à-dire qu'en effet, 4 allocutions, pas une seule fois il ne répond à des questions, pas une seule fois il n'explique donc véritablement ce qu'il a voulu faire, ce qu'il veut enclencher. C'est un problème en soi parce que ça raconte sa façon de concevoir la démocratie et je crois que nous sommes dans une période justement de demande démocratique et je trouve cette forme totalement anachronique. Mais surtout, il y a dans les mots qu'il choisit quelque chose de là aussi qui relève de la pétition de principe, je veux dire le nouveau chemin solidaire, social et écologique. Enfin, ça va de minutes les grands mots, il y a un moment où on attend justement de la précision, des actes, la question de savoir.
Ce sera donc
comment
pour les jours qui suivraient les municipales, d'après
le quotidien. D'accord, mais dans ces cas-là, à quoi servait cette intervention? C'est-à-dire convoquer 24 millions de Français devant leur téléviseur pour leur dire je vous parlerai début juillet.
On est libre avec sa télécommande à la main.
Nous sommes bien d'accord, mais c'est tout de même une façon de leur dire « Venez me voir, je vais vous parler, j'ai des choses importantes à vous dire, et la chose importante que j'ai à vous dire, c'est que je vous parlerai au mois de juillet quand ça m'arrangera. » Pardon, c'est un peu particulier comme méthode. Et surtout, je crois qu'il a évoqué, il a utilisé un mot à un moment, il a dit « Voilà, ces 2 années qui restent doivent être utiles. »
Oui.
Cette question de l'utilité, elle est très intéressante. Pourquoi ? Bien, parce que il dit cela et en même temps, il nous explique qu'il va attendre encore 2 semaines avant de lancer ce qu'il veut lancer parce qu'il y a les municipales. Alors, on peut le comprendre, il y a un calendrier électoral, il y a tout ce qu'on veut. Mais du coup, lui-même perd un temps qui normalement devrait être précieux et il le perd pour des considérations qui sont des considérations politiques au sens le plus politicien, c'est-à-dire des considérations, d'équilibre, de stratégie. Et ça risque d'être le cas pour toute la suite de ce quinquennat. C'est-à-dire qu'il devrait rester 2 ans dans lesquels Emmanuel Macron pourrait agir, aller vers ce qu'il appelle donc ce nouveau chemin. Et en fait, on a l'impression que cette action va être entravée par des réflexions sur les municipales, puis les régionales qui viennent, puis le lancement de la campagne présidentielle. Et donc, il n'y aura pas véritablement d'action et de temps utile.
Gilles, encore un mot et on passe au sujet suivant qui est aussi une question qui concerne la démocratie.
Oui, est-ce que cette intervention était indispensable? Sans doute pas. J'ai dit que c'était un point virgule. Le point virgule n'est pas le signe de ponctuation le plus indispensable. Est-ce que on peut dire que le fait d'attendre 2 semaines supplémentaires est le signe que les 2 années qui viennent ne seront pas des années utiles? Là, franchement, je trouve que Natacha va un peu loin et même beaucoup loin, si je peux.
Beaucoup trop loin.
Je me fais l'écho de ce que disent plusieurs personnes dans la majorité. Gilles, oui, je me fais l'écho de ce que disent des proches d'Emmanuel Macron.
D'accord, ok, mais si au lendemain des élections municipales, c'est-à-dire maintenant, dans 10 jours, ce qui aujourd'hui, ça je suis le premier à le dire, est flou, puisque ce nouveau chemin, il demande pour le moins à être éclairé, y compris à la fois sur l'orientation et sur la méthode. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle étape de la décentralisation qui ne porte pas son nom, sur quoi elle va se faire, etc. etc. Donc oui, mille fois oui, ça demande à être éclairé, mais on peut pas dire aujourd'hui, du fait qu'on ne sache pas tout, que ça veut dire qu'il ne se passera rien.
Qui vivra verra, le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
J'ai une grande confiance sur le fait que les 150 aboutissent à un socle de mesures cohérent, ambitieux, qui donne envie d'un monde d'après. La balle passe en effet dans le camp du président de la République et du gouvernement derrière. J'espère qu'ils seront aussi sérieux que les citoyens l'ont été dans leurs propositions et dans leur travail. Ça permettrait de hisser la France et d'en faire le pays où on construit un nouveau modèle qui prend en compte l'urgence climatique et sociale.
C'était Mathilde Himmer, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Elle était l'invitée de France Inter hier matin. Et c'est justement le dernier week-end de travail de cette convention. Les 150 citoyens tirés au sort remettront leurs conclusions demain. 150 mesures au président de la République. Est-ce que c'est pas contradictoire avec ce que vous disiez de la pratique de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, Natacha, puisque justement cette expérience démocratique est totalement inédite en France, qu'elle ouvrirait sur la possibilité d'un référendum, que des citoyens ont été choisis et tirés au sort. Bon, c'est en même temps une autre manière de faire vivre la vie collective et la décision collective, non ?
Mais c'est pour ça qu'il faut être mesuré. Il y a des choses que je peux critiquer vertement et d'autres que je trouve intéressantes. En l'occurrence, cette convention citoyenne, bon, il faut rappeler comment et pourquoi elle a été mise en place. C'est une façon d'éviter, j'allais dire, le référendum d'initiative citoyenne. C'était une réponse au mouvement des Gilets jaunes, une réponse à la demande démocratique, une réponse très intéressante, très novatrice, je trouve.
Oui.
Mais qui, en fait, cherchait à quand même à garder une forme de contrôle. Et c'est pour ça qu'il va falloir, là aussi, regarder comment ça va se passer. D'abord, il y a un élément intéressant qui est que quand des citoyens se réunissent, réfléchissent, écoutent des experts, eh bien, les idées qui ressortent sont des idées qui montrent que les citoyens exercent leur libre arbitre, réfléchissent, ont une vision d'avenir, ce dont je n'ai jamais douté, mais je pense que la démocratie, justement, nécessite qu'on multiplie ce genre de choses, l'implication des citoyens pour véritablement que cette démocratie nous imprègne. Simplement, et d'ailleurs, pour autant, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans ces propositions. Par exemple, j'adorerais comprendre comment on en arrive à une proposition sur la semaine de 28 heures. J'aimerais savoir quel est le processus. Vous voyez, ça, je suis très sceptique.
Et sur les 110 km/h et sur des taxes carburants polluants, c'est même de nature à relancer un mouvement comme celui des Gilets jaunes.
Oui, et à côté de ça, il y a beaucoup de choses très intéressantes, parce que enfin, on n'en reste pas seulement à la question du climat et des émissions carbone, on parle artificialisation des sols, on parle urbanisme, c'est formidable. Après, la question, ça va être de savoir ce qu'on va en faire. C'est-à-dire si, une fois de plus, le politique va piocher quelques éléments qui l'arrangent, nous mettre un référendum sur ces questions-là, référendum qui, évidemment, permettra d'éviter la question de la légitimation par le référendum, c'est-à-dire que ce sera un référendum vraiment factuel, d'abord à questions multiples, donc dans lequel beaucoup de citoyens pourront répondre oui sans qu'il y ait une politisation de ce référendum, ce qui évite là aussi un danger. Mais si on pioche quelques idées en laissant de côté ce qui dérange, alors ça n'aura pas servi à grand-chose pour une raison simple, c'est que il y a une pensée cohérente dans une réflexion sur l'environnement. C'est une vision du monde, c'est une demande de changement majeur. C'est pas des petites retouches à la marge comme on l'a toujours fait. Donc que va-t-il sortir de ça ? C'est ça qu'il faudra suivre.
Gilles Finkelstein.
Bon, il y a la question de l'innovation démocratique et il y a la question des propositions. Et je crois qu'il faut, autant qu'il est possible, séparer les deux dans l'analyse. Donc je vais me concentrer pour commencer sur la question démocratique, en soulignant simplement une chose au passage, c'est qu'il y a 10 minutes, juste avant le commencement de notre émission, la Convention citoyenne a rejeté la proposition des 28 heures, et donc ce qui me paraît être une bonne chose quoi qu'on pense de cette question-là sur le fond, parce que le lien avec la lutte contre le changement climatique me paraissait ténu et que le risque de concentrer le débat sur une question annexe me paraissait très fort. Bon, donc ça, c'est fait. Sur la question démocratique, je partage ce que dit Natacha sur le fait que c'est une vraie et je crois une remarquable innovation démocratique. Il y en a peu, des innovations démocratiques. Il y a eu ces dernières années les budgets participatifs. Il y a eu, d'une certaine manière, le grand débat. Là, on est sur quelque chose de plus grande ampleur et c'est assez largement une réussite. Cette convention a été aussi représentative qu'il est possible. Elle a été éclairée par les experts, mais elle a pris ses propres décisions. Elle a été très engagée, c'est-à-dire que les citoyens se sont pris au jeu et se sont incroyablement impliqués. Et elle
les 150 tirés au sort.
Les 150 tirés au sort.
Et mais que devient la démocratie parlementaire, du coup ?
Alors, c'est là où, je dis, c'est à la fois une remarquable innovation démocratique et ça pose de redoutables questions à la démocratie. Il y a celle de l'accueil, Natacha l'a évoqué, qui va être fait à ces propositions par le président de la République, qui a pris un gros risque, puisque quand il est allé devant la Convention, il leur a dit « je reprendrai vos propositions sans filtre ». On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a la question de l'accueil par le législatif, parce qu'il y a un certain nombre de ces propositions qui doivent avoir une traduction législative. Ça veut dire d'une certaine manière...
Notamment tout ce qui concerne la fiscalité, puisque ça ne peut pas être soumis à référendum.
Notamment, ça veut dire que les députés vont se retrouver avec une forme de mandat impératif, ce qui est contraire à la Constitution. Et puis, quel va être l'accueil des Français, à la fois l'accueil politique et l'accueil s'il y a un référendum sur lequel, moi je suis à ce stade, je dois dire je suis en réflexion, mais je suis interrogatif, parce que s'il s'agit simplement d'une disposition symbolique, d'une modification du préambule de la Constitution, ça me paraît en deçà du sujet. Si on sélectionne quelques propositions sur lesquelles il y a une forme de questionnaire à choix multiples, pourquoi pas, mais là aussi, ce n'est qu'une partie des propositions. Et si c'est les 150 propositions qui sont soumises à référendum, oui, le risque d'une coalition des noms parce qu'il y a une mesure qui ne vous plaît pas me paraît important. Donc, voilà, je trouve que c'est très intéressant. Et ça pose de grandes questions.
Ça pose de grandes questions. Natacha, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être généralisé selon vous, ces méthodes-là qui sont inspirées notamment de ce qui s'est pratiqué en Irlande autour de la question de la légalisation de l'avortement, une convention citoyenne des citoyens tirés au sort et qui dialoguent, se réunissent pendant plusieurs mois pour faire des propositions ensuite au législateur, au pouvoir exécutif de dire ce qu'il en fera.
Alors, généraliser, tout le monde voit les difficultés que cela pourrait poser et Gilles a soulevé les plus importantes et les plus intéressantes d'ailleurs de ces difficultés. C'est la question de l'articulation entre démocratie directe et démocratie représentative. Donc, je pense que ça doit pour l'instant être mis en place sur des sujets précis, des sujets vastes, des sujets où l'on voit que l'on n'arrive pas à avancer, où l'on voit que parfois le travail de lobbying de certaines strates du système économique empêche véritablement de faire émerger la volonté des citoyens. C'est sur ce genre de sujet, me semble-t-il. Sachant que nous avons encore à inventer cette articulation entre démocratie directe et démocratie représentative. Je ne suis pas pour l'abolition de la démocratie représentative. Je pense qu'elle est en crise majeure, que cette crise majeure naît du fait que les représentants ne représentent plus pour beaucoup de raisons. Il y a un renfermement sur une caste et une partie de la population, des citoyens qui n'ont aucun espoir d'être un jour parmi les représentants et tout ça doit être pensé en lien avec la question de l'ascension sociale. Et donc c'est par là que se trouvera, qu'on pourra penser cette articulation. C'est pas seulement une question institutionnelle.
Mais
c'est
justement
que la démocratie représentative nécessite d'être revivifiée. Cette démocratie directe, cette expérience de démocratie directe est une des façons de compenser la crise de la démocratie représentative.
Crise de la démocratie représentative, mais la démocratie représentative, ce n'est pas seulement l'élection d'un président de la République, de députés. Il y a aussi les élections municipales, d'autres représentants qui, pour le coup, sont davantage appréciés par les Français. Vous vouliez parler, Gilles, des municipales qui arrivent et notamment de cette curiosité d'un front anti-écologiste alors que, justement, on est au cœur de l'agenda et de décisions majeures dans ce domaine-là. On a l'impression qu'il y a une sorte de front anti-vert qui se dessine depuis qu'a repris la campagne électorale et les négociations en vue du second tour qui aura lieu dimanche prochain. C'est comme si les écologistes agrégeaient contre eux toutes les autres forces politiques. Je le dis un peu brutalement, mais est-ce que c'est pas un bon résumé de cette drôle de campagne ?
Non. Non, je trouve que là, pour le coup, vous allez beaucoup trop loin, mon cher Ali.
C'était une question.
Oui. Trois courtes remarques. D'abord, d'un point de vue démocratique, on a une campagne. Et vous vous souvenez que quand a été décidée la date du 28 juin pour ce second tour des élections municipales, il y avait eu, les Français d'ailleurs, y compris majoritairement, étaient opposés à ce choix parce qu'ils redoutaient qu'il ne puisse pas y avoir de campagne. Donc il y a une campagne avec sans doute ce qui est pour moi le meilleur mode de scrutin, qui est ce mode de scrutin municipal dans lequel il y a deux tours, dans lequel chacun peut être représenté mais une majorité se dégage. Moi je tire peut-être une leçon d'un point de vue démocratique, ou deux leçons, c'est que vraiment pour aller jusqu'au bout, ça suppose un changement culturel, c'est-à-dire que l'idée d'un compromis, l'idée d'une fusion, et donc qui se traduit par une fusion des listes, eh bien, c'est quelque chose qui est regardé aujourd'hui en France trop souvent comme une trahison, alors que c'est l'essence même de la démocratie. Et le deuxième, là, qui est vraiment dans l'actualité, c'est peut-être un changement institutionnel. Une des leçons positives de ce qui se passe, et qui est le fruit du hasard, c'est que la campagne est plus longue que les campagnes municipales traditionnelles de l'entre-deux-tours, qui en réalité ne durent que 3 jours, entre le dépôt des listes, 3 ou 4 jours, entre le dépôt des listes et le vote. Là, nous avons plusieurs semaines, et c'est quelque chose qui est, je crois, qui est positif, parce que ça permet aux citoyens de savoir réellement quelles sont les listes et de nouer le débat.
Deuxième, vous avez une vision optimiste de la campagne, mais c'est une manière de voir les choses.
Mais parce que je ne sais pas si vous habitez dans une commune dans laquelle il y a une élection municipale, parce que ce n'est pas le cas évidemment partout, je veux dire qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels il y a une vraie campagne. En tout cas, il y a plus de campagnes aujourd'hui sur ces 3 semaines qu'il y en a traditionnellement sur les 3 jours. Deuxième remarque, d'un point de vue politique...
Et rapidement, c'est... avant de passer au débat.
Très rapide, à la fois l'échec de l'implantation locale des 2 principales forces politiques nationales, ça, quel que soit le résultat, ça me semble acquis, La République en marche d'un côté, le Rassemblement national de l'autre, n'auront pas réussi cette marche. Et puis, deuxième remarque politique, c'est la constitution d'un bloc social écologique dans beaucoup d'endroits. On va voir quel va être le résultat, s'il va y avoir des conquêtes, mais c'est, je crois, un des enseignements centraux, au-delà de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire ce front anti-écolo qui, d'une certaine manière, se substitue au front anti-Front National, ce qui, ce retournement rhétorique-là étant pour le moins choquant. Et je crois que l'efficacité électorale de ce front anti me semble aussi sujet à caution, dans la mesure où pour qu'il y ait un front, il faut qu'il y ait une menace qui soit perçue comme ça par les citoyens.
Natacha, rapidement.
Rapidement, je rejoins Gilles sur le constat de ce qu'il y a d'intéressant dans le mode de scrutin, dans la façon dont les municipales nous montrent ce que pourrait être une véritable organisation politique. Et je suis d'accord sur la notion de compromis et sur le fait aussi que habituellement, laisser 3 jours aux citoyens pour digérer cette fusion des listes amplifie cette impression qu'il s'agirait de combinations et de petites tractations en coulisses, alors qu'il s'agit en effet d'une réflexion sur ce que peut être un projet plus vaste. Ça, c'est le point positif. Après, je pense que le fait que les 2 grandes formations nationales n'arrivent pas à s'implanter localement, mais ça nous raconte aussi le problème de notre vie démocratique à l'échelle nationale, qui visiblement est coupée de la démocratie locale qui, elle, fonctionne et qui est un très bon élément, justement, d'appui, normalement, pour petit à petit reconstruire une démocratie aux différents échelons. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur le local. Mais après, le front anti-vert, Gilles le le balaye un peu d'un revers de main, je pense que ça nous raconte beaucoup aussi toute la difficulté qu'il y a à penser la place de l'écologie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des réflexes, face à certains verts parce qu'il y a une différence au sein des écologistes qui est majeure entre
une tentation
gauchiste extrêmement marqués et qui finalement ont un tropisme vers certains courants parfois groupusculaires et d'autres qui au contraire penchent largement de l'autre côté, c'est-à-dire trouvent que finalement la version libérale macronienne n'est pas si incompatible avec une véritable révolution écologique, ce qui moi me semble aberrant.
L'essentiel en tout cas ce sera d'aller voter dimanche prochain, dimanche 28 pour le second tour des municipales dans les communes où ce second tour aura lieu. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Il est 12h30 sur France Inter et à suivre dans le grand face-à-face le débat avec l'historien Pascal Blanchard.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Faut-il réécrire l'histoire de France? Les débats se poursuivent sur la mémoire de la colonisation, la mémoire de l'esclavage, sur la possibilité même d'un récit commun qui puisse réunir absolument toute une société autour de son passé. Notre invité historien, c'est l'un des grands spécialistes de la question coloniale, des enjeux post-coloniaux également. Il a travaillé sur les symboles, les images, les représentations du racisme. On lui doit de nombreux livres, des travaux qui font référence sur la République et son empire, sur les zoos humains par exemple, ou encore la fracture coloniale. Et il publie un livre passionnant aux éditions de La Martinière, « Décolonisation française au pluriel, la chute d'un empire », livre co-signé avec Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire et préfacé par Benjamin Stora. Bonjour Pascal Blanchard.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter, j'ai hâte de vous entendre débattre sur cette question qui semble brûlante. Vous qui avez déjà connu des périodes où la France débattait, où la société se déchirait autour de son passé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au fond sous le soleil?
Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a une génération, on va dire d'une vingtaine d'années, qui se sent concernés par le débat sans pour autant être ni descendants forcément et naturellement d'avoir eu des grands-parents qui aux colonies étaient des acteurs de l'histoire, par exemple descendants d'immigration, descendants de pieds noirs. C'est une nouvelle génération qui se sent concernée parce qu'elle fait le lien entre le passé colonial ou esclavagiste, les discriminations aujourd'hui et une continuité dans une forme de racisme. Donc elle est dans cette génération, elle a été depuis 20 ans à l'école, elle a appris une nouvelle manière de regarder l'histoire, elle a lu des livres de Slimani, de Mabankou, elle a vu des films, elle a vu des prises de position, elle a peut-être aussi écouté le discours du rap, de la culture populaire qui a parlé de ces questions. Faut pas croire que ces questions ne rémanent pas dans la société, ils sont le fruit de cette époque.
Ils sont le fruit de cette époque, mais c'est aussi une question qui divise sur le plan politique, sur le plan idéologique, voire même sur le plan culturel. C'est assez intéressant de voir qu'au-delà des jeunes qui peuvent se retrouver pour manifester autour de certains slogans, de voir qu'un ancien Premier ministre comme Jean-Marc Ayrault lui-même s'empare de la question. Il a fait ce travail de mémoire à Nantes, je ne sais pas s'il a été achevé ou non, en tout cas sur le passé esclavagiste, mais Jean-Marc Ayrault par exemple, qui dans une tribune publiée par le journal Le Monde demande qu'on débaptise la salle Colbert à l'Assemblée nationale. Ça va bien au-delà des répliques du mouvement Black Lives Matter et de la simple question de déboulonner ou non les statues aujourd'hui, non Pascal Blanchard ?
Tout à fait. D'abord parce que Jean-Marc Ayrault n'est pas à sa première action dans un sens positif. Je vous rappelle que quand il était Premier ministre, il avait ramené la tête d'Ataï, un Kanak décapité qui était conservé dans nos musées. Et c'était un geste qui était passé totalement inaperçu à l'époque, mais j'avais trouvé extrêmement courageux parce que c'était une manière de rééquilibrer les mémoires. Et dans la même continuité que ça, Jean-Marc Ayrault fait partie de ces politiques qui depuis très longtemps se sont engagés sur ces questions et il l'a fait de manière très concrète dans sa ville. Ça n'était pas simple. Nantes est une ville qui est marquée par l'histoire de l'esclavage. Il a trouvé le juste équilibre, je dirais la juste mémoire en tant qu'élu municipal sur le territoire. Donc on voit que des élus de la République se sont engagés depuis très longtemps sur ces questions et ont cherché des voies médianes. Et en même temps, d'autres élus considèrent encore que toucher au passé colonial, c'est toucher à la grandeur de la France, à une certaine manière dont la France doit écrire son histoire, à ces héros qui sont dans nos villes, on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, si on s'attaque à des statues, c'est que ces statues veulent dire quelque chose. C'est une manière de placer des personnes qu'on reconnaît.
Quand statue
on
crée une statue, de rue.
C'est... ou noms de rue. Alors, les noms de rue, on y vit tous les jours et c'est nos adresses sur nos enveloppes et nos cartes postales. Donc par définition, on touche à des symboles. Et donc dès que vous touchez à des symboles, le politique s'en empare. Ce n'est pas juste neutre et c'est pas simplement parler d'histoire. C'est la manière dont la France doit se raconter dans le présent qui est en débat. Et la manière dont les mémoires diverses, parce qu'elles sont diverses, quand vous êtes descendant d'arrière-grands-parents ou de grands-parents qui, certes, par vos parents sont devenus immigrés, mais aussi étaient indigènes, c'est pas la même histoire que quand vous êtes descendant, par exemple, de pieds noirs rapatriés ou de harkis. C'est pas la même mémoire que quand votre grand-père a fait la guerre d'Algérie. Et c'est pas la même mémoire quand vous regardez cette histoire d'ici, pas forcément liée avec ce récit, et que vous avez appris à l'école un autre regard, par exemple, ou dans le cinéma, sur la manière de lire d'une manière mécanique cette histoire. Je rappelle qu'on est un des pays qui a le plus de mal à voir son récit, et c'est pas un hasard. Pourquoi? Bah parce que c'est la République aussi qui a colonisé.
On va en parler justement. Natacha Polony.
Oui, je pense que tout le problème en la matière est d'être sur une ligne de crête. Et elle est très difficile à trouver, cette ligne de crête. Parce que ce que fait Jean-Marc Ayrault à Nantes, c'est tout à fait légitime. Et en effet, quand vous avez un personnage qui a été un esclavagiste et qui n'a en fait pas apporté grand-chose d'autre à sa communauté, à l'humanité même que cet esclavage. C'est pas très compliqué de décider qu'en effet, c'est pas légitime de lui accorder un nom de rue ou quoi que ce soit. Quand on entre dans ce qui est un peu plus complexe, par exemple la figure de Colbert, là ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que l'effacer Colbert, au nom du fait qu'en effet, il est l'auteur du Code noir et que en effet, ça pose problème, ce serait effacer aussi ce qu'il a fait qui, aujourd'hui, se lie dans l'histoire, dans l'organisation de la France, dans sa structure. Et donc, il y a là quelque chose qui nécessite une réflexion, qui nécessite, en fait, un récit historique. Et là, je rejoins Pascal Blanchard, c'est par le récit historique et le récit historique dans sa complexité qu'on va pouvoir le faire. Tout le problème est en effet de faire entendre cela aussi bien à ceux qui, à ceux qui des deux côtés prennent l'histoire comme un bloc.
Et justement, et on va rentrer dans cette question-là. Ben,
mais simplement, je pense que on n'avancera pas si l'on n'arrive pas à trouver ce juste milieu qui consiste à considérer qu'il y a des noirceurs dans l'histoire de France et que nous devons les affronter même dans le récit que nous faisons à notre jeunesse, dans le récit scolaire, mais qu'en revanche, il y a une tendance actuelle de certains militants à vouloir expliquer que l'Occident serait plus noir que les autres civilisations humaines.
Je ne sais pas si le mot est très bien choisi pour le coup, mais en l'occurrence, je le dis
en souriant. Oui, mais vous voyez à quel point je n'ai aucune arrière-pensée.
Ah, mais évidemment, vous n'en avez
en effet ce genre de phrase sans penser que ça.
Aucune arrière-pensée. Et je précise, Pascal Blanchard, que vous n'êtes pas partisan, par exemple, de déboulonner les statues. Mais, par exemple, il y avait combien de rues, d'avenues Maréchal Pétain qui ont été toujours baptisés ou qui ont été comment dire, la dernière rue ou avenue Maréchal Pétain, c'est quand?
2013. En 2013. Et ça a été un long processus, en fait, d'effacement de celui qui avait été, d'ailleurs, très souvent honoré au nom de la bataille de 14-18, hein, en tant que grand général de 14-18. D'ailleurs, on avait oublié aussi qu'il avait été le combattant de la guerre du Rif dans les années 1925-1926, qui a été
au Maroc.
Une guerre extrêmement meurtrière. Mais il était dans nos rues, en 44-45. Et petit à petit, ça s'est effacé. Oui, la République a effacé des statues et des noms de rues parce qu'il n'était plus possible de commémorer le maréchal Pétain.
Gilles Finkelstein.
Oui, vous disiez tout à l'heure, Ali, vous interrogiez Pascal Blanchard pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et je voudrais quand même qu'on essaye de revenir là-dessus, parce que la France a un rapport compliqué à son passé colonial depuis longtemps. Ça a été à l'origine de crises politiques profondes, à la fois sous la 4e et sous la 5e République, de traumatismes individuels, notamment pour toute la génération qui a fait la guerre d'Algérie, de malaise collectif un peu plus à droite qu'à gauche, mais à gauche également. Comment vous expliquez que, pour reprendre le titre du livre d'Henri Rousseau à propos de Vichy, ce passé qui ne passe pas, qu'on ait le sentiment que c'est un passé qui passe de moins en moins? Est-ce que ce qui s'est passé au début des années 2000, c'est-à-dire les 2005, les émeutes de banlieue, 2010, le débat manqué, je crois, sur l'identité nationale telle qu'il avait été lancé par Nicolas Sarkozy, est-ce que ces moments-là constituent pour vous des moments de bascule?
Pascal Blanchard.
Oui. Tout à fait, Gilles a entièrement raison. 2005-2006, c'est le moment de basculement absolu. D'abord, on le voit en termes de publications, de livres, de revues. Pratiquement tous les grands hebdomadaires et journaux français vont faire des dossiers spéciaux sur la colonisation.
Et c'est le moment où aussi vous commencez, vous, par exemple, à publier vos travaux sur les eaux humains, sur l'Empire colonial.
Exactement. On publie cette année-là la fracture coloniale, qui fait d'ailleurs débat, puisque les gens ne mesurent pas tous qu'il y a cette fracture dans cette nouvelle génération, dans la société. C'est le moment de la révolte des quartiers populaires fin 2005. C'est aussi le moment où vont naître les indigènes de la République, qui vont radicaliser la question sous une manière de la lire en se considérant comme les seuls détenteurs du droit de regarder le passé colonial. Et là, je rejoins Natacha sur ce qu'elle vient de dire. C'est le moment où, d'un seul coup, la question coloniale redevient visible. Pourquoi ? Parce que nos élites politiques et les présidents de la République et les gouvernements successifs précédents, que ce soit d'ailleurs de droite comme de gauche, les années Mitterrand, les années Chirac, Pompidou, Giscard, ont pensé qu'en tournant la page, on effacerait l'histoire coloniale. Ils ont oublié deux points essentiels. D'abord, cette histoire est majeure et en France, on tourne pas la page de l'histoire. L'histoire nous fabrique en tant que républicains, en tant que français, et l'histoire fait partie de nous, quelles que soient ces pages d'histoire. Et deuxièmement, personne n'avait imaginé qu'un jour vivraient en France les petits-enfants des colonisés d'hier. Tout le monde avait pensé qu'ils oublieraient, mais non, ils n'ont pas oublié. Parce que tout simplement, cette histoire, elle fait partie de l'histoire de leur famille et maintenant de leur pays. Donc quand vous mixez ces deux points-là, le temps n'efface pas l'histoire. Le temps, au contraire, par les mémoires, mais aussi par les questionnements, par la manière de tourner la page en commun, à un moment fait revenir ces questions que nos élites politiques ont voulu totalement effacer. Vous savez, sous les années Mitterrand, par exemple, qui a quand même été un des grands ministres des colonies de la 4e République en 1950-1951, en charge en grande partie de la question algérienne, oui, en tant que ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur. C'était une question taboue au Parti Socialiste. Il était inconcevable pour Mitterrand qu'un musée d'histoire coloniale puisse être créé, voire même une exposition sur le passé colonial.
Il n'en existe d'ailleurs toujours pas de musée de l'histoire coloniale en France.
Bah, c'est extrêmement révélateur, vous le savez très bien comme moi. Lui.
Contrairement à ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple, en Belgique.
Pays-Bas, Belgique, Angleterre, ce sont, et Portugal bientôt. Ce sont des pays qui ont essayé, je dis pas tous avec perfection, mais de traiter la question. Nous, en France, c'est un tel tabou que vous pouvez même pas imaginer l'idée, un tant soit peu, qu'un musée d'histoire coloniale raconte l'histoire. Je le dis toujours avec une boutade, on a 23 musées du sabot et aucun musée d'histoire coloniale. Quand l'histoire rentre pas au musée, c'est classique, les radicaux, toutes les radicalités s'en emparent, la manipulent, la travaillent. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, les conseillers du prince vont nous expliquer que cette question est tellement taboue qu'il est impossible d'avoir un juste milieu. Mais à force de ne pas trouver le juste milieu, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Les autres s'emparent de cette question parce que pour elles, elle est essentielle. Oui. Savoir qui on est dans une république à coloniser, ce n'est pas un petit sujet.
Natacha Polony.
Je pense en effet que même le récit artistique, en fait, est très en deçà de ce qu'il pourrait être. Par exemple, sur la guerre d'Algérie, c'est frappant. On met beaucoup de temps, ça commence à émerger, les œuvres sur la guerre d'Algérie, en bande dessinée, au cinéma, mais ça a été très très long. Juste pour prolonger la question de Gilles, qui demandait ce qu'il y avait de nouveau. Est-ce que ce qu'il y a de nouveau, ce ne serait pas le fait que ce passé qui ne passe pas et qui est pour le coup notre héritage français, ne vient pas s'entrechoquer avec un mouvement qui, lui, est importé des États-Unis, c'est-à-dire une certaine lecture des problématiques de couleur de peau, de rapport entre communautés. Et quand on voit l'importation de concepts comme celui de privilège blanc, qui en fait est imprégné de culture américaine et même de la conception des races à l'américaine, parce que le privilège blanc, ça consiste à penser en race blanche et race noire. Quand on lit les textes, c'est ça. Comment on fait face à ce mouvement qui, du coup, vient encore plus fragiliser l'universalisme républicain, alors qu'on aurait pu se dire que, justement, cet universalisme permettrait, en le poussant, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à sa logique suprême, de, justement, d'intégrer tout le monde et d'arriver à relire cette histoire.
Pascal Blanchard.
Ah, très bonne question. C'est parce que d'abord, le mouvement décolonial, par exemple, est à la fois influencé par ce qui s'est fait dans les universités américaines, comme lecture de l'histoire, et ce qui s'est fait dans, on oublie beaucoup, ça vient d'Amérique du Sud. Parce que ce sont des sociétés où les minorités indiennes ont été totalement écrasées par une forme de pouvoir blanc. Donc c'est une sorte de mixologie entre ces deux tendances qui a été redigérée par un nombre de militants en Europe. Vous avez raison là-dessus, et en même temps, ne nous leurrons pas. Ils sont aussi héritiers d'un combat anticolonialisme très ancien. C'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est que notre République a aussi eu des Michel Rocard, qui s'opposent en 59 à la manière dont la France pratique la guerre d'Algérie, oui, des Mendès France, qui font le discours de Carthage à Tunis, des Jules Maigne. Jules Maigne, ce député oublié par tous, qui n'a pas une plaque de rue dans ce pays, se lève en 1885 face à Ferry, quand Ferry dit « il y a un droit des races supérieures sur les races inférieures ». Exactement, Jules Maigne se lève, grand député d'Auvergne, et dit « vous osez dire cela dans le pays des droits de l'homme ?» C'est-à-dire que nous avons aussi notre récit anticolonial. Et en fin de compte, ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, parce que c'est une génération que certains appellent racisée, qui se sent à travers ce prisme-là, en prenant la lutte des Afro-Américains notamment, ou la lutte telle qu'elle est dialoguée aux États-Unis, qu'elle va avoir plus de poids pour s'appuyer face à une société qu'elle considère comme blanche, qui est incapable d'entendre son discours. Mais si la République universelle avait fait son boulot depuis 30 ou 40 ans, ça n'aurait aucun effet.
Mais pour répondre précisément, Pascal Blanchard, à Natacha, est-ce que vous employez, vous, par exemple, les mots racisés, l'expression privilège blanc? Et quel sens est-ce que vous lui donnez?
Quand je les emploie en termes historiques, c'est-à-dire que je les mets entre guillemets, je conteste la notion de privilège blanc parce que d'abord elle est chargée d'un poids idéologique qui ne veut plus rien signifier. Par contre, de considérer que des blancs puissent avoir des avantages au nom de l'histoire, il faut être aberrant et vraiment ne pas être un chercheur pour s'en rendre compte. On voit bien qu'il est plus facile d'être blanc en Occident que de ne pas être blanc. Bah voilà, c'est une banalité absolue. Par contre, ce qui recèle le mot privilège blanc est devenu un argument idéologique. Et c'est là que je le conteste. Un chercheur ne peut pas prendre un argument idéologique comme un argument d'analyse. Par compte que certains se perçoivent comme racisés, c'est-à-dire comme s'il y avait une communauté globale d'individus, il y a des personnes qui aujourd'hui se pensent dans cette dialectique-là. Nous chercheurs, on est obligés de l'intégrer. Oui. On est obligés de l'intégrer parce que c'est une perception. D'ailleurs, je vous rappelle que des gens se pensent blancs. Quand le Front National met un slogan « On est chez nous », il n'est pas en train de s'adresser à ceux qui ne sont pas blancs.
Et le premier slogan parti... « White Lives Matter » qui était affiché sur une banderole oui. par Génération Identitaire samedi dernier indiquait bien qu'il reprenait effectivement ces échantillonniers de couleurs.
Et pourquoi? Parce que vous avez aussi une dialectique politique blanche. Le premier parti post-colonial dans ce pays, c'est le Front National au milieu des années 70. Il naît de la guerre d'Algérie. Et il naît dans un discours très clairement blanc, anti-immigré. On va pas perdre deux fois la guerre d'Algérie. Et je vous rappelle que Marine Le Pen, héritière de cette histoire, est toujours là. C'est pas un parti qui a disparu dans les affres des éclaboussures impériales. Il est toujours là et il ne vient pas de n'importe où. Et cette dialectique qu'il a portée pendant 40 ans dans notre vie politique a fait ses effets dévastateurs. Oui. C'est-à-dire que les deux radicalités s'opposent aujourd'hui, parce que je dirais que la majorité à la fois politique, culturelle, dans l'opinion, d'une certaine manière a du mal à prendre la parole parce que l'État aujourd'hui ne fait pas son boulot. J'écoutais Natacha sur ce qu'elle disait tout à l'heure sur la convention qui vient d'avoir lieu, et je pense que l'idée de cette convention...
La convention citoyenne pour le climat.
Eh ben, on pourrait peut-être imaginer sur notre passé faire la même chose, comme l'ont fait deux pays, le Maroc sur les années Hassan II, et l'Afrique du Sud, je vous le rappelle, sur l'apartheid, qui a trouvé des compromis, parce que nous, Français, on pense qu'on est les seuls à détenir la méthode, eh ben, il faut regarder ce qu'ont fait les autres.
Avec des procédures de justice et réconciliation, ou de vérité et réconciliation pour ce qui concerne le cas marocain. Je vais donner la parole à Gilles Finkenschein, parce que c'est vrai qu'il y a des initiatives qui peuvent être intéressantes, et on va y venir, mais j'aimerais quand même qu'on reste sur des problèmes qui vont ou continuer de se poser. Gilles Finkenschein.
Oui, je crois que Pascal Blanchard a raison d'inscrire ce récit anticolonial et ce combat anticolonial dans une histoire longue. Il a parlé de François Mitterrand, mais il y a pour toute une génération à gauche, l'engagement anticolonial a été la matrice de leur engagement politique. Et puis, il y a l'histoire récente qui, pour une large part, ne s'inscrit pas du tout dans la continuité de cette histoire-là, qui est ce que l'on appelle la mouvance décoloniale, mouvance de laquelle, je le précise d'emblée, Pascal Blanchard a pris dès le lancement notamment de l'appel des indigènes de la République, qui a donné lieu après à la constitution du Parti des indigènes de la République, a pris ses distances, et qui fait de la question identitaire, dans sa dimension à la fois raciale et religieuse, ce qui est une spécificité française, la grille d'analyse centrale de ce qu'est notre société aujourd'hui et qui voit là-dedans le cœur de tous les mécanismes de domination. Ma question est comment vous voyez, dans les 15 dernières années, l'évolution de cette mouvance? Comment vous évaluez la réalité de son influence? Et est-ce que vous considérez que la critique, qui est la critique que moi j'avais faite dans, après beaucoup d'autres, hein, dans Piège d'identité, qu'il y ait une espèce de jeu de miroir entre l'extrême droite et cette partie de la mouvance décoloniale qui fait de la question de l'identité, la question centrale, au détriment de la question de l'égalité? Est-ce que vous considérez que cette critique aujourd'hui est justifiée?
Pascal Blanchard.
Non, c'est un vrai combat qui existe à l'intérieur, à la fois de la pensée universitaire. On le voit que la pensée décoloniale a aussi son influence dans le monde des musées. Elle a fracassé totalement le mouvement antiraciste. Faut le dire. Oui. Faut dire qu'elle a délégitimé aujourd'hui une grande partie du mouvement antiraciste en considérant, par exemple, qu'un blanc ne pouvait pas porter, pour faire clair, la lutte antiraciste parce que blanc, donc héritier d'une longue tradition blanche et être allié du pouvoir. Là, il y a un combat, je dirais, de microcosme, mais qui est essentiel parce que ceux qui vont emporter la manière de déconstruire ce passé. Moi, je suis un post-colonial, je ne suis pas un décolonial. Alors, vous allez me dire, c'est une nuance.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire ?
Il n'y a aucun effet. Ben, penser que le post-colonial, c'est qu'il y a des continuités coloniales, ça ne s'est pas arrêté avec la fin de l'Empire. Tout ne s'est pas arrêté en 62 en France. Voilà. Et donc, accepter de lire le présent à l'aune aussi de l'histoire coloniale, comme des grands combats de la République, de la laïcité, de l'histoire des rois de France qui ont fait la France. Le temps colonial a des continuités dans le présent. Pour autant, je ne globalise pas tout en pensant que tout part de là et que tout arrive à là et que justement une vision identitaire doit être la seule lecture du monde. À partir de ce moment-là, on est mort. C'est plus de l'histoire. C'est de l'idéologie. Et la différence, ça vous paraît extrêmement simple, c'est quand je dis non, on garde les statues et on explique les statues. Non, on garde les plaques de rue, on explique les plaques de rue. Mais oui, on construit des musées, sinon on va perdre.
Mais Pascal Blanchard, je vais donner la parole à Natacha dans une seconde, mais juste un exemple par exemple, parce qu'aujourd'hui la menace semble être le racisme des antiracistes qui peut paraître paradoxal. En revanche, il y a des discours qui sont aujourd'hui très largement répandus, ceux par exemple portés, parce qu'il en est le héros, par Éric Zemmour, lorsque lui rend hommage à Robert Bugeaud, qui a été un massacreur de l'Algérie lors de la conquête de ce territoire au 19e siècle. Aucun problème pour applaudir le général Bugeaud, et pour le coup, c'est pas de l'histoire qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ? De la politique ?
Oui, exactement. Il fabrique une certaine manière de dire, si on commence à lâcher un de ces héros coloniaux, c'est toute une certaine vision de la France qui va s'effondrer, en gros, de Bugeaud jusqu'à Guy Mollet. Donc on n'y touche pas. On n'y touche pas parce que d'une certaine manière, ce serait fragiliser ce qu'a été la grandeur de la France, notre modèle, nos valeurs universelles qui ont été portées peut-être avec le sabre et le goupillon aux quatre coins du monde, mais au final, ce que fait Bugeaud, c'est quand même d'apporter les lumières pour ceux qui veulent bien les entendre. C'est une vision de l'histoire qui, pour moi, est autant radicale que celle des ultras, des coloniaux. Et c'est pour ça qu'il faut combattre sur les deux facettes. Le rêve, quand par exemple Zemmour nous dit « la France était grande au temps des colonies », elle n'était grande que parce que les Noirs étaient dans les champs de coton et les femmes dans les cuisines. Donc elle était grande peut-être pour les hommes blancs, mais pas pour l'ensemble d'une société. C'est donc deux sociétés qui s'opposent. Il faut s'opposer aux deux versants. N'oublions pas que les nostalgiques l'ont emporté pendant très longtemps. Gilles se souvient peut-être du discours de Toulon, de Nicolas Sarkozy, en 2007 dans la campagne. Un de ses premiers discours, où il nous parle de la civilisation française, il s'adresse aux pieds noirs, il s'adresse à un électorat, et il dit, cette grandeur-là, ceux qui s'y opposent, ce sont les repentants. Ça veut dire que cette question n'est pas qu'une question historique. Elle marque la manière dont on veut regarder la France, hier comme aujourd'hui. Elle a été un élément politique majeur de plusieurs campagnes électorales. Et je vous rappelle qu'en 2017, la phrase dont tous les manuels d'histoire se souviendront d'Emmanuel Macron, il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura une.
Crime contre l'humanité.
Un crime contre l'humanité.
La colonisation est un crime contre l'humanité, phrase prononcée lors d'une visite en Algérie.
Exactement. Vous voyez bien que ces questions, c'est pas simplement faire de l'histoire, c'est même pas qu'écouter les mémoires, c'est pas que parler des statuts, c'est la manière dont on va en commun écrire un récit, parce que pour la première fois, l'autre prend la parole. C'est aussi ça qui dérange beaucoup Éric Zemmour. Ce n'est parce que ceux maintenant qui sont les descendants de ceux qui ont été colonisés sont devenus des intellectuels, des acteurs qui pensent, des gens qui demandent simplement que se rééquilibre l'histoire dans les romans de Slimani, dans les romans d'Alain Mabankou, dans les romans de David Diop. C'est une autre écriture, un autre récit, parce que nous l'écrivons en commun. Oui, c'est très compliqué, parce que personne nous avait donné la règle du jeu. Oui. On va devoir écrire entre descendants de colonisateurs et descendants de colonisés une histoire commune. Je peux vous le dire, personne l'a fait avant nous.
Il reste très peu de temps. Natacha Polony.
Alors, rapidement, oui, c'est quand même effarant de voir des gens expliquer que la grandeur de la France, c'est elle vient de ceux qui ont trahi ce qui fait la France, c'est-à-dire l'humanisme, les Lumières. C'est quand même extraordinaire. Donc Bugeaud, moi, je pense que si on efface les rues, c'est pas très grave. Juste une chose, voilà, nous sommes quand même confrontés à une question.
Mais c'est très grave pour Éric Zemmour.
Culturelle. Oui, d'accord, mais tant mieux pour lui, mais c'est, je pense qu'il se plante complètement. Mais nous avons quand même un problème qui est justement que cet universalisme, cette idée des Lumières, est aujourd'hui considérée par certains comme étant un produit de l'Occident qui ne devrait pas s'imposer et qui ne devrait pas surtout être diffusé. Or, la question qui se pose est celle de savoir ce que nous avons en commun en France, c'est-à-dire par exemple un principe comme la laïcité, est-ce que ça appartient culturellement aux blancs ou est-ce que c'est universel et est-ce que c'est un principe que nous pouvons partager au sein d'une société multiethnique, quelles que soient les mémoires que nous portons chacun ? C'est un problème qui se pose de façon aiguë.
Mais qui s'est posé aussi en Turquie, je ne sais pas s'ils sont blancs en Turquie, mais Pascal Blanchard.
Oui, tout à fait. Mais je pense que la majorité des Français, quel que soit leur parcours familial et leur parcours migratoire, partagent ce point de vue. Ce qu'il faut quand même être lucide, c'est qu'on est arrivé aussi à une maturité générationnelle. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on laisse parler les radicaux et ceux qui ont les positions les plus dures, parce que l'État semble pétrifié par ce qui se passe. Mais si on faisait un sondage, une convention ou un débat, je vous assure que la majorité des gens veulent simplement pouvoir emmener leurs enfants au musée et raconter cette histoire. C'est pas simple. Mais avoir que l'État puisse, avec l'éducation nationale, avec la culture, en recrutant des professeurs. Vous savez, Libadou, moi je me rappelle d'une génération, je suis plus très jeune aujourd'hui, où la plupart de mes collègues qui ont fait de l'histoire coloniale n'ont pas eu de poste en France. Ils sont tous aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Suisse. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était tellement un tabou et tellement considéré comme secondaire que ça n'a pas été un des éléments majeurs de nos universités, de notre pensée collective. Nos artistes se sont partis. Et pourtant, nous avons en France la capacité de mettre toutes ces personnes qui pensent, en fin de compte, globalement pareil, d'arriver à trouver une voie médiane et commune pour travailler. Il faut juste moins entendre les radicaux. Et pour moins les entendre, il faut parler aussi fort qu'eux, agir et être des acteurs. C'est pas en ne faisant rien. Le regard lucide du président ne suffit pas. C'était le même mot qu'avait employé Hollande pendant 5 ans. Et les années Hollande sur la question de la mémoire coloniale, c'est un flat absolu. Donc je pense qu'il faut aller au-delà du regard lucide. Il faut, oui, avoir un regard lucide, mais il faut une action concrète. Il faut arrêter les mots et il faut passer aux actes. C'est la meilleure manière de faire taire les radicaux.
Gilles.
Oui, alors justement, qu'est-ce que ça voudrait dire passer aux actes? C'est-à-dire comment, concrètement, on construit un récit national partagé? Vous avez évoqué un musée. Très bien, je suis 1000 fois pour. Évidemment, ça ne suffira pas. Il y a eu, malgré tout, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui a été créée enfin, et qui d'ailleurs qui est présidée par Jean-Marc Ayrault dont on parlait. Mais vous parliez de Nantes tout à l'heure. Comment ça s'est passé à Nantes, justement, ce travail pour partager un récit par rapport à ce qu'a été l'histoire de cette ville? Et ce qui s'est passé à Nantes, est-ce que c'est reproductible et comment au niveau national?
Il reste une poignée de minutes, Pascal Blanchard.
Je vais le faire très court. Ça a pris 20 ans à Nantes, ça a démarré dans les années 92-93, ça a été une longue concertation, une réflexion sur les plaques de rue. Le travail même qui a été fait d'architecture, quand vous arrivez au mémorial, il est au niveau du fleuve, c'est des petites plaques au niveau des sols quand vous vous promenez le dimanche en famille, où il y a juste le nom des bateaux qui sont partis de Nantes. C'était un travail parcellaire parce qu'ils savaient très bien que une partie de l'opinion à Nantes aurait pu être heurtée par la manière trop violente de regarder se passer. Et il a trouvé le juste équilibre. Regardez Bordeaux, après de nombreuses années, vient de faire un travail, je trouve, très intelligent, en expliquant les plaques de rue dans une ville qui, pendant très longtemps, avec Alain Juppé, a eu du mal aussi à regarder cette histoire. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Ça, c'est une première méthode.
Quand on veut, peut. Malgré tout, même la question, par exemple, du Vichy, de la collaboration, la question de la guerre d'Algérie a été extrêmement compliquée à aborder pendant des années et à aborder de front.
Mais bien sûr, parce que les acteurs politiques jusqu'aux années 2005 étaient les acteurs politiques de cette histoire. Vous imaginez bien qu'un Chirac face à Mitterrand, aucun des deux n'avait envie de regarder la question algérienne en face. C'est une continuité absolue, et que le Front National, par sa pression, a d'une certaine manière mis ça comme enjeu en disant « on est un traître à la France quand on a un regard lucide sur la période coloniale ». Et ils ont été pétrifiés pendant, je vous le dis, 40 ans. Il est temps justement qu'on sorte d'ailleurs, notre président l'a dit, il est né après. Et la plupart des Français sont nés après. C'est toujours plus facile, je vais vous dire, de faire de l'histoire quand on n'aurait pas été ni un acteur et qu'on est né après cette histoire. Mais pour aller beaucoup plus loin, vous posez des questions très précises sur quoi faire. L'éducation nationale a encore un vrai travail à faire et elle le fait très bien depuis 20 ans. Elle doit continuer. On doit pousser ces questions-là. On doit pousser la question du recrutement. On doit travailler la question avec le CNC, le CNL, sur la capacité de soutenir des films. Rappelez-vous l'impact d'un film comme Indigène de Rachid Bouchareb. Oui. Il a plus fait pour le destin des tirailleurs sénégalais que toutes les politiques publiques pendant 40 ans. Et l'Allemagne a montré l'exemple. Des artistes sont appelés en Allemagne, non pas pour déboulonner des sculptures, mais pour travailler sur des statues dans la rue, avec un travail artistique contemporain pour faire que le regard soit décentré. Moi, je crois en ça. Oui, c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus laborieux. Ok, c'est
pas grave. Mais la France est vraiment en retard sur sa mémoire. Juste d'un mot et avant de conclure, quand on regarde l'Allemagne par exemple, la question du génocide des Hereros en Namibie est quand même très peu et très mal enseignée. Quand on regarde aux États-Unis, il y a des choses formidables qui se font dans les universités, mais malgré tout, il y a des statues d'anciens esclavagistes et d'anciens généraux confédérés, je pense juste au général Lee ou à Pike, dont la statue a été déboulonnée hier à Washington. C'est quand même des sujets qui restent très très clivants et tendus.
Oui, parce que aux États-Unis, vous avez le sud et le nord, et vous remarquerez que dans le nord, ça travaille mieux que dans le sud, et que dans le sud, pour déboulonner le statut de Lee, c'est un vrai problème politique et électoral. Donc, premier point, il y a déjà une partition territoriale, comme on a nous en France. Je vous rappelle que l'une des premières décisions de Ménard à Béziers, ça a été d'inaugurer une plaque pour rendre hommage à plutôt quelqu'un du côté Algérie française. Encore aujourd'hui, on inaugure de nouvelles plaques dans tout le sud de la France. Benjamin Stora appelait ça une forme de sudisme, exactement comme aux États-Unis. Et Madame Merkel a reconnu il y a 18 mois le génocide des Hereros pour l'Allemagne. Ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne est bien en avance sur nous, les Pays-Bas aussi, la Belgique a fait sa mue avec le musée de Tervuren. En Angleterre, vous avez le musée de Liverpool et de Bristol. Nous, on en est encore à se poser la question si Emmanuel Macron doit lancer une mission de préfiguration pour un jour imaginer un musée d'histoire coloniale. Alors, si vous me posez la question du retard...
Et ce sera le mot de la fin. Oui, on est en retard.
Bah, merci.
Mais on peut, malgré tout, arriver à temps, comme le raconte la fable, enfin je me souviens plus très bien, de la fable de la tortue, mais j'imagine que je vais la retrouver en sortant du studio, c'est assez consternant, mais bon, c'est vous qui avez de la mémoire, vous les historiens. Merci Pascal Blanchard, Décolonisation française, merci. La chute d'un empire est publiée aux éditions de La Martinière. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la dernière de la saison. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Coyenne Guyenne, à la technique Michel Bessekian, et à suivre sur Inter le journal d'Yves Decamps.